Qu'est-ce qu'on déguste ? Vous est présenté par Vinovali, union des caves de Fronton, de Técou, des Côtes d'Olt et des vignerons d'Orabastins. Vinovali, les vignerons d'Ovalie.
Hola a todo el mundo. Ahora, el momento tanto esperado.
Qu'est-ce qu'on déguste ? Bonjour. Nous voici de retour dans nos studios 5 boulevard Garrison à Montauban. On est bien au chaud avec Pascal Olivier qui est en train de s'installer. Salut Pascal.
Salut à tous.
Georges qui a déjà débouché la première bouteille et qui est en train de se servir un petit bout d'Alice de chez notre ami Philippe Romain. Ça va?
Ouais. Ça va bien.
Ça a l'air d'aller. Salut Gaël.
Salut à tout le monde.
Comment ça va?
Bah très bien aussi, un peu humide comme tout le monde, mais ça va.
Gaston Lagaffe a 57 ans.
Oui, voilà, grâce à un petit truc iconoclaste d'internet, j'ai décidé de changer ma chronique aujourd'hui. J'avais prévu autre chose, mais du coup on va parler de Gaston. Bon, c'est pas si terrible que ça de parler de Gaston en même temps.
On écoutera du jazz forcément.
Alors aujourd'hui, je vais parler de L'aventure du jazz, le film de Louis Panassier. Et j'ai choisi deux morceaux à l'intérieur de ce film.
Et pour notre ami Pascal.
Eh ben nous, on va parler de Paco de Lucia qui nous a quitté cette semaine, et on va parler après des médailles des 20 Tarn-et-Garonnais au concours général agricole de Paris. Et nous aurons au téléphone à 18h45 Sandy Jolibert qui était jurée dégustatrice aux 10 concours agricoles, et elle va nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé. Je vous donnerai la liste des médailles d'or, des médailles d'argent aussi, il y en a eu beaucoup, et on parlera un petit peu de ces fameuses médailles du concours général agricole de Paris.
Lola Lestum sera avec nous également, on l'avait reçue il n'y a pas très très longtemps.
C'est de 20 vignes voyage.
Voilà, une des trois nanas de 20 vignes voyage, elles nous présenteront leurs vignerons du mois. Vous entendrez également la Vox Populi, puisque Marie nous a fait un petit micro-trottoir concernant le manger local, le consommer local. Voilà, ça ce sera au programme de cette émission qui est consacrée à Franck Garcia, le patron de Lys Traiteur, un traiteur montalbanais. Bonjour.
Bonjour à vous.
Merci d'être là, Franck Garcia.
Merci beaucoup.
Et merci d'être venu en poussant la porte avec les pieds.
Comment les invités, comment les aime.
Voilà.
Là, on a de belles choses et ça a l'air bon et c'est bon.
Salut. On écoute Paco de Lucia et puis
oui,
on revient vers ce qu'on va déguster. C'est qu'est-ce qu'on déguste ? Et ça commence par un mort qui joue de la guitare.
Thank you.
être tout le monde d'accord, on va l'appeler Francisco Gustavo Sanchez Gomez. Il s'appelait autrement de son nom de scène Paco de Lucía. Décédé avant-hier, il était né à Algeciras en 1947. Très tôt, son père lui donne des cours de guitare en le faisant travailler jusqu'à 12 heures par jour. Alors là, tu m'étonnes que la guitare, ça doit rentrer dans les doigts. Musicien précoce et prodige, il monte sur scène pour la première fois à l'âge de 11 ans. Classique, il enregistra des pièces de Manuel de Falla et de Joaquín Rodrigo, notamment le concerto d'Aranjuez. Flamenco, son duo avec Camarón de la Isla, avec qui il tourna pendant plus de 10 ans, apportant un renouveau étincelant au genre. On en écoutera un petit morceau tout à l'heure. Curieux de tout et pouvant tout aborder techniquement, Paco de Lucía joua également avec les meilleurs guitaristes de jazz comme John McLaughlin, Larry Coryell, Aldi Meola. Ça a permis de le faire connaître à un grand, grand public, mais aussi de jouer avec le pianiste Chick Corea. Il restera comme une légende de la guitare flamenca, sachant tocar comme personne. Adios, Paco de Lucía.
Qu'est-ce qu'on déguste, monsieur, dame? Ben, on déguste des mets que nous a apporté Franck Garcia de Lys Traiteur. Alors, si vous voulez savoir de quoi on parle, vous pouvez déjà, par exemple, googliser Lys Traiteur. Lys comme la fleur de Lys, hein, lys-traiteur.com. Voilà. Alors, Lys Traiteur est installé à Montauban. Ne cherchez pas une boutique, il n'y en a pas. Franck travaille dans son laboratoire, à la barille des projecteurs. Et est spécialisé, on va dire, dans l'événementiel. Hein,
c'est ça.
Alors, faisons connaissance, Franck. Qu'est-ce qui vous a amené déjà, vous, sur ce métier-là?
Une grand-mère cuisinière, une maman qui adorait faire la cuisine, de la famille dans la restauration. Donc, naturellement, je suis venu à la cuisine.
Ouais. Ouais.
Tout simplement.
Vous êtes d'ici, du Tarn-et-Garonne?
De Beaumont-de-Lomagne.
De Beaumont-de-Lomagne. Vous avez fait des études?
Apprentissage.
C'est appelé... Cuisine?
Oui, c'est appelé cuisine. Que de la cuisine. J'ai toujours fait que de la cuisine, en fin de compte.
D'accord.
Donc,
Et pourquoi le choix d'être traiteur plutôt que d'avoir, par exemple, votre propre restaurant?
C'est différent. Ça fait à peu près une dizaine d'années que je suis dans le traiteur événementiel. La logistique est différente. La vision de la restauration est complètement différente. On travaille en amont, on prévoit le projet. C'est plus une préparation de projet que une instantanéité sur un repas. Voilà. C'est plus carré. C'est beaucoup plus carré et ça permet de faire des choses beaucoup plus belles et beaucoup plus grandes.
C'est-à-dire surtout qu'on n'est pas dans l'urgence, on a moins le doute que dans la restauration traditionnelle, quoi.
Voilà.
C'est ça?
Il n'y a pas le droit au doute, de toute façon. Qu'un client demande une prestation sur un cocktail déjeunatoire ou dînatoire ou une prestation, il veut que tout soit calé en amont et que tout soit carré d'avance. Voilà. C'est l'avantage du traiteur, c'est qu'on peut vraiment, tout faire à l'avance.
Donc vous vous êtes lancé directement comme traiteur? Ou vous avez commencé en travaillant comme cuisinier dans d'autres restaurants?
J'étais d'abord cuisinier dans un restaurant.
Rapproche le micro de monsieur, s'il te plaît. Voilà.
J'ai d'abord travaillé en restaurant où je suis monté de grade, de commis, à chef de partie, à second et à chef de cuisine. Et après, je suis passé sur du traiteur. J'ai voulu essayer le traiteur, c'était une branche que je connaissais pas du tout, et je m'y suis plus, et donc je suis resté, ça fait à peu près 10 ans que je suis dans le traiteur maintenant.
D'accord. Avec de suite Lys Traiteur, ou ça c'est
assez récent? Non, d'abord j'étais chef dans des traiteurs, et puis ça faisait quelques années que ça me trottait de monter mon entreprise, et en septembre 2012, on a ouvert Lys Traiteur à Montauban.
Oui, donc c'est assez récent.
C'est assez récent. Voilà. On rentre dans la quatrième année.
C'est une grosse entreprise aujourd'hui?
C'est une belle entreprise, voilà. Mais qui reste à taille humaine.
D'ailleurs, combien de salariés
Alors, c'est aléatoire parce que tout va dépendre du type de prestation. Sur un mariage de 250 personnes, on va monter jusqu'à 17-18 personnes. Voilà. Donc, on s'adapte vraiment.
D'accord. Mais sinon, il y a 5 employés en permanence.
Tout à fait.
Voilà. Et puis, des extras, évidemment,
des extras,
les jours de...
Voilà. D'accord. Sur du personnel que je connais, moi, depuis des années. Donc, avec qui je travaille tout le temps.
Une spécialité?
Pas
la qualité.
La qualité. D'accord. Mais pas un produit plus qu'un autre
Non, j'aime tout travailler. Je travaille uniquement avec la saison. Voilà, ça c'est vraiment le créneau de Lys Traiteur, c'est vraiment la saison.
Alors c'est ce qui m'a fait, moi, en allant sur son site, donc lystraiteur.com ou .fr, je ne sais plus, .com, dans la partie qualité, il y a, vous ne trouverez pas de spécialité avec des tomates au mois de décembre. Et c'est vrai que ça m'a fait tilt parce que les gens veulent, aujourd'hui il y a beaucoup qui s'en fichent, ils veulent avoir des choses colorées, etc. Et trouver un traiteur qui va travailler de la saisonnalité, et puis il nous expliquera aussi tout à l'heure avec et des produits locaux. C'est pas si courant que ça.
Non.
C'est pas une démarche parce que je suis allé voir par exemple si on voit Gin Traiteur à Toulouse qui est un énorme truc. Là, de la tomate, il y en a aujourd'hui. Il y a des plein de choses avec on veut du melon, ils vont fournir du melon. Il y a de la tomate, il y a de la pêche ou de la cerise.
Ouais, souvent le traiteur il se met un petit peu aux ordres de celui qui passe la commande quand même.
Mais c'est à nous à faire l'éducation aussi des clients, tout simplement.
Donc ce côté de temporalité, saisonnalité et de local, moi j'ai trouvé ça vraiment bien. Alors bon, c'est très restrictif parce que il faut que le client il se plie à ça.
Oui.
Donc il faut bien l'éduquer, mais j'ai trouvé que c'était vraiment un parti pris qui valait le coup de défendre.
Merci beaucoup. Après, je pense que les clients reviennent à des valeurs. De saison. Voilà, les gens veulent plus de tomates en décembre, ils veulent plus de. On en voit de moins en moins de gens qui achètent des concombres maintenant. Voilà. Il faut attention maintenant, et c'est important, je pense, qu'au moins pour l'éducation de nos enfants, de faire attention à ce qu'on mange, et surtout à l'époque où on le mange.
À l'époque où on le mange.
Oui, ça fait longtemps qu'on n'a pas trinqué. Hop, depuis au moins la semaine dernière.
Oui,
à la vôtre.
La semaine dernière.
Bah oui, la semaine dernière, on avait trinqué. Alors, avant qu'on écoute peut-être un petit morceau de jazz, vous pourriez nous parler de ce que vous nous avez apporté, parce que ça nous permettra d'attaquer quand même.
Ouais.
Attaquons.
Alors, foie gras grillé, pain, raisin noisette et confiture d'oignon au coquelicot.
Dans le micro.
Sucette de cuisse de caille, panée au sésame. Tartare de saumon, céleri, gingembre, citronnelle, agrumes.
Il y a du gingembre, donne-moi un, tiens.
Cornet de grison et crème de réfort.
Si.
Rémoulade de crabe king, caviar de wasabi et sablé au curry. Club sandwich de bœuf. Bœuf, c'est du charolais. Sauce gribiche, roquette et parmesan. Savarène de chèvre à la tomate et caviar de vinaigre balsamique. Voilà.
Ah bah dites donc,
j'ai cru entendre tomate. J'ai rêvé.
Oui. Là.
Elle vient d'où alors?
Tomate, elle est la tomate séchée.
Ah d'accord.
Ouais. Ouais.
La tomate séchée, t'as le droit. Prends ça dans ta gueule.
Et claque.
Alors si on commence par le commencement, on commence par le saumon.
Non.
Foie gras. Bon. Non, je
regarde.
Voilà.
Regarde-le. Tiens.
Allez, hop,
tomate séchée, on a le droit.
Oui. D'accord.
Hop. En 1972, le fils de Hugues Panassier, Louis Panassier, qui faisait des reportages et des conférences pour connaissance du monde, décida, sous l'impulsion de son père, de faire un film sur le jazz et sur la partie du jazz qui disparaissait un petit peu, avec ceux qui ont créé le jazz dans les années 30 et les années 50. Et avec sur ce film, il y avait aussi pas mal de bluesmen. Il y avait notamment John Zill, Lee Hooker et Memphis Lim. Il y avait aussi chanteuse de négro spirituel Sister Rosetta Tharp, et beaucoup d'enregistrements étaient faits à Montauban. D'ailleurs, celui que j'ai choisi aujourd'hui, c'est un enregistrement qui est particulier. C'est Memphis Lim qui a enregistré Faubourg du Moussier sur un piano qui n'est pas tout à fait accordé, mais ce qui donne un charme au morceau. Et la particularité de ce morceau, c'est qu'il est traduit en même temps par Madeleine Gauthier. C'est quelque chose qu'on n'a jamais entendu. Un morceau chanté en anglais avec la traduction française simultanée. Et ce, pour dire, à l'époque, quand le disque est sorti, José Arthur, qui faisait le pauvre flash sur Europe, je crois, à l'époque, pendant une semaine, s'est servi de ce disque comme indicatif, pour dire la notoriété, l'impact qu'avait eu ce disque à l'époque. Donc nous écoutons Memphis Lim et Madeleine Gauthier dans Beer Drinking Woman, l'histoire d'une buveuse de bière.
Il y a du chocolat?
Non.
On dirait qu'il y a du chocolat.
Non, c'est le foie gras grillé en fait qui donne ça.
Le grand Big Bill disparu.
Par ici. On y a droit.
Quelle surprise.
On travaillait longtemps ensemble.
I walked into a beer tavern.
J'entre dans une taverne à bière.
To give a girl a nice time.
Pour que la petite ait du bon temps.
I had $45 when I entered.
J'avais $45 en sortant, j'avais plus un rond.
Wasn't that a beer drinking woman?
C'était une buveuse de bière.
Don't you know, man? Don't you know?
Croyez-moi, monsieur, croyez-moi.
She was a beer drinking woman.
Une vraie buveuse de bière.
And I don't wanna see her no more.
Mais c'est fini. C'est terminé.
When I spit down to my last dime.
Une fois parti mon dernier sou.
She says, darling, I know you're not through.
Elle me dit, mon chou, c'est pas tout.
I told her, yes, baby, darling.
Oh, si, je dis, c'est toi qui gagne.
And the trumpet belongs to you.
Et le trophée, il est pour toi.
Because you're a beer-drinking woman.
Parce que c'était une buveuse de bière.
Don't you know, man, don't you know.
Croyez-moi, monsieur, croyez-moi.
She was a beer drinking woman.
Une vraie buveuse de bière.
And I don't want to see her no more.
Mais c'est fini, c'est terminé.
Now she'd often say, excuse me a minute.
Elle disait, attends-moi une minute.
I've got to step around here.
Je vais faire un tour et je reviens.
And every time she came back.
Et chaque fois qu'elle revenait.
She had room for another bottle of beer.
Elle avait fait de la place pour un autre demi.
Wasn't that a beer-drinking woman?
Vous parlez d'une buveuse de bière.
Don't you know, man, don't you know?
Croyez-moi, monsieur, croyez-moi. Croyez-moi.
She was a beer-drinking woman.
Une vraie buveuse de bière.
And I don't wanna see her. No.
Le petit accent parisien de Madeleine de Gauthier, qui était la secrétaire d'Hugo Panassier, qui était traductrice de, elle a noté, traduit notamment le livre Release the Blues de Mes Mesro. Là, c'était Beer Drinking Woman en compagnie de Memphis Slim.
L'invité de Qu'est-ce qu'on déguste aujourd'hui, il s'appelle Franck Garcia, c'est le patron de Lise Traiteur. Pour tout savoir sur Lise Traiteur, eh bien vous tapez dans internet lise-traiteur.com.
Et pour en savoir un peu plus, ils écoutent Qu'est-ce qu'on déguste.
Bah oui, c'est le mieux quand
même.
Bah
oui.
Bah oui.
On l'a là en vrai, en plus on
et donc on déguste ce foie gras. Moi, j'ai trouvé un goût de chocolat, et donc, visiblement, pas de chocolat, vous nous disiez tout à l'heure, voilà.
C'est juste quand on le grille au grill, en fait, il amène un petit côté caramélisé qui donne un petit côté, cette amertume qu'amène le chocolat.
D'accord.
Voilà.
Et c'est du foie gras de Beaumont de Lomagne ou
non,
de...
du Lot.
Du Lot.
Oui.
D'accord. Allez hop, j'y retourne, hein.
Oui, parce que t'en as pris un de plus que ce que
bah ouais,
tu avais droit.
J'ai pris la part à Christophe, m'a dit.
Il t'a cédé ta part.
Ah oui. Christophe, quand tu n'es pas là,
eh oui, c'est vrai. Ah oui, t'es petit salopard là, t'es vraiment.
Vos cibles, votre clientèle ciblée, qu'est-ce que c'est? C'est plutôt les mariages, c'est plutôt comment ça marche?
Non, on a un plus gros segment sur l'entreprise.
Événementiel, c'est ça, c'est pour l'entreprise.
Pour l'entreprise et le particulier, bien sûr, sur le mariage, baptême, communion. Mais c'est vrai que notre plus gros pourcentage, on est à 70% entreprise, 30% mariage, enfin particulier. Sur l'entreprise, on travaille énormément sur le coffret repas. Tout ce qui est livré posé, donc les buffets, les cocktails déjeunatoires, à livraison simple et sans personnel. Tout ce qui est séminaire, repas de gala également. Voilà. Et après, bien sûr, sur le particulier, on travaille sur le mariage et tout le reste.
D'accord. Donc, ça veut dire, sur l'entreprise, c'est quoi? C'est comme ce qu'on déguste aujourd'hui. On est plutôt sur du froid, du lunch, des choses comme ça?
Tout à fait. Du lunch, du froid, du buffet. Le coffret repas qui marche bien.
Parce que c'est le coffret repas?
C'est le plateau repas, en fin de compte, en coffret. Mais là, nous, on travaille sur quelque chose de beaucoup plus qualitatif, couvert en inox, verre en verre. Vous avez une bouteille d'eau, c'est une entrée fraîche, de saison. Une viande ou poisson. Le dessert de chez Alexandre à Montauban, puisque tous mes desserts viennent de chez Alexandre.
Donc la pâtisserie est bonne.
Oui.
Et elle est faite à Montauban.
Tout à fait. Le fromage vient de chez Betty, à Victor Hugo.
Mmh. Betty. Voilà.
Qui est affineur. Place Victor Hugo.
Place Victor Hugo.
À Toulouse.
D'accord.
Voilà. Qui a fait partie l'année dernière des 10 meilleurs affineurs de France. Voilà. Donc on est sur vraiment du qualitatif. Et on est sur du coffret de repas de direction. Plus.
D'accord.
Oui, c'est pas des coffrets repas à prendre au pied de la machine là comme un jambon beurre.
On peut.
Comment vous travaillez vos recettes?
Alors, il y a d'abord un côté créatif. Je crée la recette sur le moment en cuisine avec les gars. On l'améliore.
C'est vous qui êtes un petit peu.
Moi, je suis tout le temps en cuisine.
Oui. Voilà. Recherche et développement, c'est vous, c'est Franck Garcia. Où il y a.
Ah non, c'est collégial. Non, ouais. Le chef, c'est moi.
D'accord.
Voilà, le chef, c'est moi. Mais après, c'est collégial.
C'est bien de dire ça, le chef c'est moi. Là je trouve que ça vraiment, Louis XIV comme... disait le roi c'est moi, l'État c'est moi, et là le chef c'est lui.
C'est ça.
Bah, comme ça au moins on le sait.
C'est fait.
Voilà.
Il en faut une.
Et en plus.
Donc une fois qu'une recette elle est validée.
Elle est validée, on l'a fait tester.
Par les proches ou par
les proches.
D'accord.
Voilà. Et une fois qu'elle est validée par les proches. Là, on la met en page, c'est-à-dire qu'on la formalise avec les grammages et le process de cuisine.
Oui, parce qu'en plus, il y a une histoire de coût. Il faut quand même rentrer dans un
coût
acceptable.
Oui, tout à fait. Histoire de coût, il y a la saisonnalité qui rentre en ligne de compte aussi. Donc, on peut pas toujours travailler ce qu'on a envie et comme on le veut. Là, en ce moment, c'est compliqué parce que la période est transitoire. On n'a pas forcément des légumes de printemps. On est encore sur la fin des légumes d'hiver. Ouais. Donc, c'est compliqué de travailler là-dessus, mais c'est le challenge, c'est ça qui est beau aussi.
Quand on travaille comme vous là sur des petites bouchées, là ce que je suis en train de déguster à la toute petite cuillère dans un petit bol.
Ça a une longueur en bouche.
Ouais,
ça,
voilà. On travaille forcément sur les saveurs, sur les goûts.
Oui.
Les épices, c'est comment vous imaginez
ça? Les épices, mais surtout sur les petites pièces, il faut que ça pète en bouche. Mmh. Parce que c'est de la petite quantité, il faut qu'on ait vraiment quelque chose qui pète en bouche. Donc ça c'est important sur les petites pièces. Sur les grosses pièces c'est différent, mais là-dessus il faut vraiment que ça explose en bouche. Donc c'est vrai qu'on travaille beaucoup plus. Moi je suis très fan d'agrumes, donc je travaille beaucoup avec les agrumes, le gingembre, la citronnelle, parce que ce sont vraiment des exhausteurs de goût. Mmh. Voilà. Il y a aussi un petit peu de vodka dedans. C'est ce qui amène un petit côté peps.
C'est ça. Voilà. Mmh. On va le frapper.
Ça. ça marche super bien.
Ça fonctionne super bien. Comment vous appelez ça?
C'est un tartare de saumon.
Ok, on peut mal.
J'aime pas trop les noms alambiqués.
Ouais.
Le produit pour le produit. Voilà. C'est un tartare de saumon, point.
Point, on ne dit pas que c'est.
Et le saumon, voilà. Il vient d'où? travaille en local.
Non, ben là, ça va être compliqué. Ouais. Non, Écosse.
C'est pas du Norvège?
Non.
Bon. D'accord. Déjà ça.
Non.
Non. Oui, parce que Pascal ne mange plus de saumon de Norvège.
Et j'espère que personne en mange maintenant.
Mais c'est de plus en plus controversé.
Ils ont perdu beaucoup. Il y a une grosse baisse de 20-25% de consommation sur le saumon de Norvège.
Et t'as mieux.
Oui, il y a eu des abus terribles. Ouais. Des abus terribles côté phytosanitaire, côté sanitaire, etc. etc. Donc, on veut bien manger pas cher, mais pas des merdes éhontées comme ça.
Après, je pense que c'est pas compatible la qualité et le prix. Voilà. On peut pas avoir beaucoup de valeur pour peu d'argent. Et malheureusement, sans taper sur les grandes et moyennes surfaces, mais elles ont galvaudé ça. On peut pas avoir beaucoup de valeur pour peu d'argent, c'est pas possible. Donc elles sont obligées de rogner quelque part si elles veulent garder leur marge.
Ça veut dire que Lys Traiteur, c'est un traiteur qui coûte cher?
Non, au contraire, on a un très bon rapport qualité-prix. Au contraire, on s'adapte nous à la clientèle,
ouais.
Bien sûr. On a cette chance de travailler que du frais, du local, donc nos coûts et les intermédiaires sont réduits.
Ouais. Voilà. Bah justement, quand vous dites vous travaillez local, vous faites comment pour trouver des fournisseurs?
Alors c'est du bouche à oreille.
Ouais.
Des fournisseurs, de gens qui connaissent. Voilà, je travaille que comme ça et ça me va bien en fin de compte. Ça me va bien.
En saison, les légumes par exemple. Toi, tu vas au marché faire ton marché?
Marché-gare,
Marché-gare.
Marché-gare.
Mais qui n'est pas forcément du produit local.
On trouve quand même. Hein. On trouve. Alors il n'y a pas que Montauban à Marché-gare. Il y a Toulouse aussi qui est un super marché-gare aux mines. Donc on peut trouver vraiment. Après, à moi aussi, l'avantage du traiteur, c'est qu'on a des prévisions. On n'est pas comme un restaurant où on ne sait pas ce qu'on fera le lendemain.
Oui, tu peux faire 50 couverts comme zéro.
Voilà, dans un restaurant. Mmh. Moi, un mariage, je sais qu'ils sont 200. À moi me débrouiller pour que mon fournisseur, si j'ai besoin de 200 tomates.
Vous savez que c'est 200, voilà. Vous savez que c'est tel budget, donc à partir de là, ça simplifie quand même les choses.
Tout à fait.
Vous avez beaucoup de débit, vous avez une clientèle qui tourne beaucoup.
Oui. On a beaucoup de clients fidèles, ça c'est important.
C'est quoi, c'est en termes de, pour y voir clair, c'est combien de banquets ou combien de lunch par mois ou par semaine?
Ça, alors c'est totalement cyclique parce que janvier c'est énorme, février c'est un petit peu plus calme, mars ça remonte. C'est le traiteur, c'est vraiment cyclique. Donc ça dépend. On peut faire jusqu'à 15 buffets cocktails dans la semaine et la semaine d'après faire une trentaine de plateaux repas. Ça, c'est totalement cyclique.
Vous avez la capacité d'en mener plusieurs à la fois? Vous pouvez faire trois mariages en même temps?
Je ne fais pas.
Non?
Je ne fais pas. Je suis sur toutes mes prestations.
Ah oui. Donc, voilà. Vous-même.
Franck Garcia.
Ouais, le chef. Là, on le voit. Le chef.
Là, voilà. Je suis sur toutes mes prestations. D'accord. Donc, je double pas, notamment sur les mariages. Je ne double pas.
D'accord.
Voilà. Je fais qu'un mariage par week-end. Moi, ce qui m'importe, c'est la qualité et que le client soit content.
On est avec Franck Garcia de listraiteur.com. La suite de Qu'est-ce qu'on déguste, c'est juste après ça.
Qu'est-ce qu'on déguste avec Vinovali, cave de Fronton et des Côtes d'Olt. Vinovali, les vignerons d'Ovalie.
Qu'est-ce qu'on déguste? La suite. On est avec Franck Garcia de listraiteur. On est plutôt pas mal. On est en train de boire un petit Alice de chez Domaine de Monteils. Il y a Georges, il y a Pascal, il y a Gaël, Aurélien et Thomanette. Et il y a même Lénaïque et Marie qui sont dans l'ombre, qui profitent de quelques restes qu'on veut bien, comme ça, laisser traîner ça et là.
Oh, parce qu'il faut se défendre, hein, parce qu'ils viennent en chiper. Hein.
Ils viendraient nous en chiper.
Ouais, ouais.
On déguste de très belles et de très succulentes bouchées préparées par Franck Garcia. Et il était en train de dire pendant les infos et pendant la publicité que ces produits étaient travaillés de façon à ce que ce soit régressif. Alors j'ai entendu ce mot-là, moi je vous demande de m'expliquer ça s'il vous plaît.
Alors, régressif parce que c'est un rappel à l'enfance. Il faut savoir que quand on est enfant, on a des souvenirs entre du croquant, du fondant, c'est des souvenirs gustatifs qui nous restent. Quoi qu'il arrive. Et donc, je travaille ces pièces, je travaille toutes les pièces dans ce principe-là, c'est-à-dire qu'il y a un croquant, un fondant et un explosif. Voilà. Donc l'explosif, quand on était gamin,
c'était les pétards.
Les pétards d'État. Vous connaissez ça? C'était le truc qui pétille en bouche.
Comme le tang, là, qu'on se
pétille. Exactement. Et bien ça, je l'utilise encore, moi, dans du riz au lait. Je le mets dans du riz au lait et je le mets par-dessus. Et voilà, c'est ce côté un petit peu régressif. Et là, notamment sur les pièces cocktails salées, j'utilise ce principe-là avec les trois textures, c'est-à-dire pétillant, fondant et croquant. Voilà, c'est ça le côté régressif en fait. Et c'est ça qui fait apprécier une pièce plus qu'une autre.
Avoir plusieurs mâches différentes.
Tout à fait, plusieurs sensations en bouche. Ouais.
Mais ça veut dire qu'il y a une vraie réflexion, une vraie théorie de la nourriture, quoi. C'est penser de cette manière-là, quoi.
Non, c'est un métier.
Ouais, vraiment. C'est une sorte de marketing gustatif.
Oui, complètement. Complètement. Oui. Il faut savoir se différencier des autres. La concurrence est rude. On est nombreux. Donc, il faut vraiment savoir se différencier et amener quelque chose de nouveau que le client n'a pas l'habitude de goûter.
Est-ce que, si je ferme les yeux, je vais reconnaître un produit fabriqué par Franck Garcia de listraiteur?
Je l'espère.
Oui.
Je l'espère. En tout cas, on essaye vraiment d'être atypique tout en restant, le plus consensuel possible. Mais on essaye de rester atypique, bien sûr. Oui.
Tout à l'heure, nous passerons un coup de fil à Lola Lestum de Vin Vigne Voyage. Elle nous présentera son vigneron du mois. Ça, ce sera dans une petite dizaine de minutes un peu plus tard. Nous ferons un jeu au 05 63 930 020 parce qu'il nous reste un week-end à vous offrir, un week-end de rêve puisqu'il s'agit d'un repas plus une nuit et un petit déjeuner à l'hôtellerie du Vieux Corde et ensuite la visite d'un vignoble gaillacois. Voilà, donc nous ferons un petit quiz aux alentours du début de la deuxième de la troisième demi-heure
18h35
deuxième mi-temps. Avant d'appeler Sandy Jolibert qui nous parlera du concours général agricole du Salon de l'Agriculture à Paris où elle était comme jurée
dégustatrice.
Terrible.
Ah oui, elle est partout.
On écoute un peu de musique.
Pourquoi pas.
Qu'est-ce que c'est?
Bah, j'étais en Australie le week-end dernier et ça cartonne là-bas. Joël Fletcher.
We'll be right back.
Et voilà, toute la jeunesse se déchaîne dessus à Melbourne sur la plage. Il s'appelle Joel Fletcher et c'était donc After Dark. Qu'est-ce que tu disais, Pascal?
C'est pas un truc qui cartonne en Australie, ça?
Mais si, si.
Une question sur Facebook, tiens. Pourquoi acheter le fromage à Victor Hugo alors que nous avons un bon fromager sur Montauban? Et là, du coup, on salue au passage la fine bouche, Laurent Bassino, qui vend son camion en ce moment, tiens.
Pourquoi?
Oui, voilà. C'est...
Parce que je recherchais un affineur et pas un fromager.
D'accord.
Voilà.
Et mais il est affineur.
Il est un peu affineur, non? Il le fait pas,
il affine pas dans sa cave. Tu affines pas dans ta cave?
Ouais, alors là, je sais pas.
Ouais, il va nous dire ça.
On lui posera la question à Laurent. Alors, Franck Garcia, Liz Traiteur, si je me rappelle bien tout ce que vous nous avez dit jusqu'à maintenant, c'est 5 salariés dans l'entreprise qui a un peu plus d'un an d'existence.
Non? Plus que ça.
4 ans d'existence. Vous en êtes où de votre développement? Est-ce que vous allez grossir? Est-ce que vous êtes bien comme vous êtes là?
Alors, grossir, oui, mais rester toujours sur de la taille humaine. Voilà. Je veux toujours rester aux commandes de la cuisine, même si je fais quand même pas mal de bureaux et de commercial, mais je veux quand même rester à la tête de la cuisine. Grossir, je pense que là, on est bien. Grossir un petit peu plus. Pas tant que ça, en fait.
Jusqu'à, parce que vous avez, j'imagine, un laboratoire, une cuisine.
Oui.
Il faut pouvoir aussi envoyer. Jusqu'à combien de un banquet pour combien de personnes vous pouvez envoyer?
Oh, jusqu'à 1000-1200 couverts.
Ouais. Donc il n'y a pas vraiment de limite pour vous à pouvoir demain éventuellement doubler, faire deux mariages en même temps. Vous pourriez? Non, vous avez pas envie de ça.
J'ai pas envie de ça.
Non.
J'ai pas forcément envie de. Je veux que le client, si je sois un référent quand il y a une prestation, je sois le référent. Il me voit sur le premier rendez-vous, il me voit la dégustation, puisqu'on fait systématiquement une dégustation, que ce soit sur le client pro ou particulier, sur les événements. Et je veux rester sur ce créneau-là.
D'accord.
Voilà. Deux mariages, faut vraiment que ce soit. Enfin, moi, je suis pas fan, quoi.
Ouais.
Tu veux pas arrêter un peu, enfin, sauter d'un à l'autre.
Un petit club là ou qu'est-ce que j'ai pas goûté moi encore là?
Qu'est-ce que tu as pas goûté? Tu as pas goûté?
J'ai pas goûté ça.
Charolais. Ah, ça c'est délicieux.
Alors qu'est-ce que c'est ça? Ça c'est du jambon.
Cornet de grison.
Non, c'est pas du jambon, c'est la viande de grison. Elle vient d'où cette viande de grison d'ailleurs?
De grison.
De Suisse. Voilà, frontière des Alpes.
Alors, la viande des grisons.
Alors, c'est du bœuf qui est séché entre deux pierres. Voilà. Et qui est à la frontière entre la France et la Suisse. Voilà, c'est une région.
Comment ça, entre deux pierres?
Oui, c'est un morceau de bœuf qu'on met à sécher entre deux pierres.
Comme un filet de bœuf.
Tout à fait.
Qui est salé. Et normalement, il devrait passer l'hiver sous la neige.
Oui.
Traditionnellement.
D'accord.
Donc ça fait une viande boucanée, une viande de bœuf salée, boucanée et qui a pris le froid et la pierre.
D'où la couleur.
D'accord. Et ça, ce que je mange là, ce petit club,
club sandwich de bœuf. Donc c'est un filet de bœuf charolais, sauce gribiche, mayonnaise maison, capre, cornichon, échalote, cerfeuil. Voilà.
Parce que sauce gribiche.
Roquette.
Sauce, ouais. Ah, il y a de la roquette aussi.
Ouais.
Et sauce gribiche, c'est plutôt ce que l'on fait de traditionnellement avec la tête de veau.
Exactement. Exactement.
Bonne sauce gribiche.
Délicieux.
Et là, toi, tu as trouvé ça avec du filet. Avec,
filet de bœuf, oui.
Filet de
bœuf. Pour l'agrémenter, parce que la problématique du filet de bœuf, c'est que c'est, même si c'est une belle viande,
c'est
elle est assez fade.
Il n'y a pas de goût.
Ouais.
Il n'y a pas de goût.
Donc, il faut vraiment l'agrémenter.
Généralement, dans vos banquets, qu'est-ce que vous buvez? Qu'est-ce qu'on boit avec vos.
Il y a systématiquement un accord mets-vins qui va se faire. Donc tout va dépendre de ce qu'on va mettre sur le plat. Voilà.
Mais c'est plutôt des vins là aussi d'ici, des vins de Bordeaux,
non, alors,
des vins de.
Moi je travaille avec Plaisir du Vin.
D'accord.
À Montauban. Voilà. Donc je vais le voir, je lui dis voilà, Gérard, j'ai ça et ça en plat, qu'est-ce que tu me conseilles, qu'est-ce que tu me proposes? Et en fonction, on fait l'accord mets-vins ensemble.
D'accord.
Voilà.
Va Un vigne voyage. Vous vous rappelez les trois nanas qu'on a reçues il y a pas longtemps? Charmantes, les trois nanas. On a décidé qu'on allait leur passer un petit coup de fil ce soir à quelles années nous présenter un vigneron, n'est-ce pas, Pascal?
Oui, ça se fera à peu près une fois par mois. Quand elles seront décidées, une fois par mois, on les a au téléphone et elles vont nous présenter leur vigneron ou leur vin du mois. Voilà. Petite découverte comme ça parce qu'elles sont sympas et puis nous aussi.
Vin vigne voyage qui donne dans le no tourisme. Évidemment, c'est comme le nom l'indique. Hein. Qui c'est qui est avec nous au téléphone? C'est pas Florent.
Non, c'est Lola.
C'est qui?
C'est Florence.
Bonjour Florence, comment ça va?
Ça va, merci.
Depuis qu'on s'est vu il y a 3 semaines ou quelque chose?
Très bien.
Alors, qui c'est votre vigneron du mois?
Alors, je ne sais pas, j'ai entendu parler de Suisse, une histoire de viande entre deux pierres. Et en fait, notre vigneron du mois est suisse. Et il est suisse installé au Carlabail. Le Carlabail, c'est un très joli village du bout de la vallée de la Lèze, en Ariège.
C'est quasiment dans les Pyrénées, c'est en pleine montagne, ça?
Non, pas du tout. C'est le Piémont, et c'est bien le Piémont. Mais le Carlas, c'est un petit village sur un promontoire, très très beau. Et ce vigneron, il s'appelle Martin Plattner. Il a 2 hectares, c'est pas grand-chose. Il s'est conduit pour moitié en Syrah et en Chardonnay. Et sa particularité, c'est qu'il est aussi tonnelier. Donc, il élève ses vins dans les fûts qu'il a fabriqués. D'autre part, il est en agriculture biologique. Il est d'origine de Berne, donc il est suisse-allemand. Et il fait de très jolis vins sur son tout petit domaine. Et bon, en dehors de ses 2 hectares de vigne, il s'occupe aussi de faire des boissons à base de fleurs de sureau.
Et alors, les tonneaux, il fait des tonneaux pour lui et pour aussi d'autres producteurs ou d'autres vignerons ou que pour lui?
En fait, il est fait pour lui. Maintenant, il est fait pour lui.
Et on trouve ses vins où?
Ah ben chez lui.
Uniquement.
En Ariège. Non, en Ariège aussi. En fait, il est une toute petite production et de fait, on ne peut pas les trouver bien loin. Voilà.
Et alors, si on veut aller le voir, on passe par Vin Vigne Voyage?
Si on va aller le voir, on peut passer par Vin Vigne Voyage. D'ailleurs, nous organisons une sortie bientôt avec un groupe pour aller rencontrer découvrir les vignobles de l'Ariège, donc rencontrer en particulier Martin Plattner. Et puis Christian Zeller, qui lui est au domaine de la Stronk.
Juste une petite question, c'est lui qui a planté les vignes ou elles existaient déjà à Carla?
C'est un petit vignoble qu'il a créé lui-même. Au Carla, il y a déjà un autre domaine qui existait auparavant, qui est le domaine de Mongino, qui était tenu aussi par un Suisse allemand. Mais ce dernier l'a vendu, donc ce n'est plus la même chose en fait que le domaine qui avait été créé à l'origine. Il y a beaucoup de Suisses allemands installés au Carla Bay. Je ne sais pas pourquoi ce coin d'Ariège, tous les Suisses allemands qui débarquent en tombent amoureux.
Ben nous, on aime bien les Suisses, contrairement à eux, hein, qui visiblement n'aiment pas trop les Français.
Les étrangers. Voilà.
Merci Florence d'avoir été avec nous. On rappelle le site internet.
vinvignevoyage.com. FR ou com, je ne sais plus.
Oui, c'est ça.
Vous allez sur qu'est-ce-qu'on-déguste.com, là j'en suis sûr, et puis vous aurez le lien, vers vinvignevoyage. Les prochaines sorties?
Les prochaines sorties, ça va être le vignoble ariégeois et puis le frontonnet, parce que bon, il faut quand même y aller, hein, c'est à côté de Toulouse, donc pour nous c'est une bonne destination. Et puis évidemment toujours le gaillacois en général. Et pour l'instant c'est tout et on prépare une sortie pour les beaux jours. On va plus aller profiter justement des beaux paysages des Corbières, donc on ira vers les Corbières et le Languedoc.
Oui, j'y vais, moi, dans les Corbières avec elle.
Bon, eh ben super. Voilà. Pour le moment, nous, on se contente du fronton avec un petit château coutinel. Merci, Florence. À plus.
Merci beaucoup.
Salut, Florence.
Merci.
Ciao, merci.
Il est bien, ce château coutinel, non? Hein?
Carole de Bellel.
Ah, c'est le Carole de Bellel.
Coutinel, ça sera pour après.
Oui, j'ai du coutinel. Ah, c'est parce que j'ai failli prendre le coutinel dans la.
Non, mais là,
la
c'est cave. Carole de Bellel.
D'accord, pardon.
Qu'on avait...
Ah, c'est très bien aussi.
Oh. 2011, fronton,
Cuvée Gino. Bon, le film L'Aventure du Jazz a été tourné en 72 par Louis Panassier sur les conseils de son père. Avec notre Montalbanais, ils sont partis en équipe légère avec Christian Ferlet et puis son épouse Claudine. Donc, ils ont pu enregistrer Duke Ellington, Louis Armstrong faire des interviews qui sont intéressantes. Ce film d'ailleurs, L'Aventure du Jazz, a été programmé l'an dernier par la mairie de Montauban dans les salles de la zone d'Aussonne. C'est un film qui a été remasterisé, qui valait le coup parce que c'est quand même une partie du jazz qui est bien représentée. Mais le jazz, c'est bien d'en parler, mais le mieux c'est de l'écouter. Je la placerai à chaque fois.
Ouais, c'est ça, ouais.
Franck Zappa, le jazz n'est pas mort, il sent encore.
Non, le titre du morceau est chez Panassier, mais il n'a pas été enregistré chez Panassier, il a été enregistré aux États-Unis. Il y a Bill Clinton, Vic Dickinson, Eddie Barfield, Ben Johnson, Sonny White, Tiny Grant, Middleton, Jimmy Crawford, toute la crème des jazzmen.
Chine. C'est bien, hein? Oui, c'est bien.
Et nous d'ailleurs, concours de
la Carole Lumet.
Oui, il est bon. Swing, du jazz qui était extrait de la bande de son du film L'Aventure du Jazz qui a été tourné par Louis et Claudine Panassier entre 1969 et 1972.
J'ai goûté les vins en IGP Ariège l'autre jour au salon Smart. Belle surprise. Donc c'est notre ami, pardon, le Faubourg 73,
Pierre
Cantegrel.
Et oui, il était à Vigny-Sud.
Tu nous dis ça dans la sur notre page Facebook en lien
dans
avec
les vins IGP Ariège. C'est vrai que l'Ariège c'est pas un département qui est ultra connu pour ses vins apparemment.
Non, pour ses babacools un peu, mais
ouais, il y a plus de plantations de ganja,
de fromage de chèvre et de
fromage de chèvre et de et de ganja, mais bon. Les Suisses allemands ont amené le vin. Puisque apparemment il y en a pas mal à Carla déjà.
Oui, parce qu'ils sont à proximité de l'Aude. Et ils consomment beaucoup de Corbières, de Minervois, de vins de l'Aude, plus que des vins du Frontonnet ou de Gaillac.
Vous faites des cours de cuisine, Franck Garcia?
Oui.
Ouais.
Oui.
Comment ça se passe?
Donc, il y a les cours de cuisine collectifs qui sont pour les particuliers. Voilà. Donc, c'est un cours qui attaque normalement le matin à 9h. On arrive le matin, on boit un petit café, des viennoiseries. On attaque les mises en place, donc sur un cours où tout le monde a sa planche, tout le monde a son couteau, chacun fabrique. Vers 10h, on fait une petite pause avec un peu de charcuterie, un petit peu de vin blanc et de vin rouge. Et on continue jusqu'à midi, et à midi, on mange tous ensemble. Voilà ce qu'on a préparé.
Le produit du repas, chacun prépare quelque chose de différent ou chacun,
non,
c'est une thématique
Oui, ouais. C'est une thématique. On était sur les cours de Noël, on était avec des bûches à base de Nutella, des Saint-Jacques, du foie gras, et voilà, tous les trois mois on renouvelle les cours.
Donc vous mettez quand même de temps en temps des saloperies dans votre dans vos recettes.
Bien sûr.
Le Nutella quand même.
Oui, mais le Nutella tout le monde en a chez soi.
Il faut quand même attirer les gens un petit peu aussi.
Exactement. Non, mais tout le monde en a chez soi du Nutella, c'est surtout ça. C'est
non, vrai. Pas moi.
Moi non plus.
J'en ai plus, il est là.
Et ça marche bien. Est-ce que la recrudescence des émissions de recettes à la télé, vous le sentez? Est-ce qu'il y a de plus en plus de demandes?
Ça a créé un petit phénomène de mode quand même.
Oui, mais c'est pas les émissions de télé, je pense, qui amènent vraiment du monde. C'est parce que les gens veulent vraiment redécouvrir la cuisine et reapprendre à faire à manger. Voilà. Je crois que c'est plus là-dessus.
Il y a eu une transmission qui s'est pas faite dans une génération. Il y a une génération qui a dû sauter.
Il y a deux générations, voire trois générations qui ont
pas appris la cuisine avec leurs parents, quoi.
Visiblement,
oui. C'est ça. Il y a eu un truc suite à l'exode rural, peut-être. On est arrivé en ville, on a bouffé des boîtes, et puis voilà.
Merci les hypermarchés, merci les supermarchés où on va trouver.
Merci
les industriels de la bouffe qui ont fait de la boîte, qui ont fait de la barquette, etc.
Comme Georges aussi, c'est pas bête. Il y a l'arrivée du congélateur qui a changé pas mal le mode de consommation aussi.
Mais congélateur, t'as deux solutions de l'utiliser. Soit tu vas acheter des trucs frais, tu les fabriques et tu vas faire des plats cuisinés que tu vas mettre au congélateur toi-même. Soit tu vas acheter directement des poches ou des barquettes au supermarché. Donc bon, c'est vrai qu'il y a eu deux trois générations où les gens n'ont plus fait la bouffe parce qu'il n'y avait plus le... Tout le monde se souvient de sa grand-mère qui faisait... Mais la grand-mère, aujourd'hui, elle a 150 ans. Tout le monde dit, ah oui, mais ma grand-mère, elle faisait un truc sur le coin de la cuisinière et tout ça. Mais oui, mais ça, c'était dans les années, quoi, 63. Et puis après, poum, cuisinière,
après,
elle avait des trous.
Ah oui.
Non, mais c'est vrai qu'il y a eu des générations, au moins deux, trois générations de cuisiniers et cuisinières complètement sacrifiés.
Heureusement, Franck Garcia est là pour vous réapprendre à cuisiner, mesdames et messieurs. Autant de mecs que de nanas dans les cours de cuisine ou
Beaucoup de mecs.
Ouais.
Plus de mecs que de nanas.
Quasiment.
Elles veulent plus faire à bouffer. Putain, elles sont terribles. Elles veulent plus faire à bouffer.
C'est l'argument de vente supplémentaire pour les gars, quoi. Voilà, ils savent faire à manger en plus. Pour les célibataires.
Et comment ça se passe quand on prend un forfait chez vous pour apprendre à cuisiner ou c'est à la journée?
Non, c'est un cours, tout simplement. C'est un cours qui dure 4h, 4h30. Voilà.
Comment on fait? Les cours se font en toboggan.
Au laboratoire. Donc on travaille vraiment dans une enceinte professionnelle.
D'accord. Pour en savoir plus, listraiteur.com.
Chemin des Ramonais, je crois.
Tout à fait.
La suite de Qu'est-ce qu'on déguste dans quelques instants.
CFM. CFM.
Qu'est-ce qu'on déguste avec Vinovali, cave de Técou et des vignerons de Rabastens. Vinovali, les vignerons d'Ovalie.
Qu'est-ce qu'on déguste? Bonjour.
Ah,
rebonjour. et même bonjour, puisque nous attaquons la troisième partie de cette émission avec toujours notre invité Franck Garcia de Lys Traiteur. Il va nous expliquer dans quelques instants pourquoi Lys Traiteur, avec ce très très chouette logo fait avec des fourchettes qui ressemblent à la fameuse fleur de lys. Toujours avec Pascal, Georges, Gaël, Aurélien est toujours aux manettes.
Et c'est là Christophe qui est off ce soir, mais c'est dommage.
C'est l'heure du quiz, les gars.
Oh,
alors,
y a un quiz.
À gagner ce soir, donc un week-end pour deux personnes à l'hôtellerie du Vieux Corde, avec le repas du soir, la nuit, le petit déjeuner et le lendemain la visite d'un vignoble gaillacois. Vous connaissez le principe. On fait quatre petites questions. Vous répondez à 50% bien au quiz et vous gagnez tout simplement. Voilà. Mais par contre, il faut être très très rapide parce que c'est maintenant qu'on vous attend au 05 63 930. 020, vous appelez tout de suite. Pendant ce temps-là, on a Franck qui nous explique pourquoi Lys Traiteur.
Alors, pourquoi Lys Traiteur? Parce que j'ai voulu associer mes enfants et ma femme à mon entreprise de façon indirecte. Donc, Lys, L-Y-S, c'est Lana, Johan et Séverine, qui sont le nom de mes enfants et de ma femme.
Alors, Lana, on l'a dans le studio. Elle est là-bas, Lana.
Ça va, Lana?
Elle arrête pas de rigoler, elle mange beaucoup de...
Elle veut pas venir s'asseoir avec nous, là.
Non, mais
viens parler dans le micro, Lana. Allez, viens.
Non, bon, elle a bien grappillé des petits clubs, des machins comme ça. C'est les premiers testeurs de tes produits.
Oui. Ouais. Oui. Femme et enfant, oui. Oui, oui. Et mon fils encore plus, puisqu'il est rentré à l'école hôtelière. Donc, en cuisine, il a attaqué son apprentissage chez Alexandre. À Montauban.
En pâtisserie.
En pâtisserie. Et il s'est dirigé là sur de la cuisine. Donc là, il est à l'école hôtelière à Souillac.
Ok. Voilà.
Ça sonne.
Alors oui, bah, ça sonne.
Quand on leur a dit que le repas pour deux, il y avait aussi l'équipe de caisse qu'on déguste avec. Ils vont peut-être être un peu moins vaillants sur le téléphone.
Ça, c'est un repas pour deux, mais avec l'USM autour de toi.
Voilà, oui. Puis on prendra la chambre aussi pour la nuit.
Allez.
Ça dépend qui gagne.
On y va. Qui est là au téléphone? On a bien
Daniel.
Quelqu'un. On a Daniel qui est avec nous par téléphone. Le standard qui est en train d'exploser.
Ça explose.
Heureusement, Aurélien gère. Bonjour, Daniel. Allô, Daniel. Daniel qui est peut-être sur une autre ligne.
Non, Daniel,
parce que je vois que ça sonne de partout. Oui. On va y arriver.
Ah, il y a quelqu'un.
Au 05 63 930 020, vous êtes en train de faire tourner en bourrique Aurélien qui ne sait plus sur quel bouton appuyer pour faire arriver votre voix, le signal téléphonique jusqu'à nous pour jouer avec nous au quiz. Alors, on va y arriver. Ça ne marche plus ou quoi? Enfin, Aurélien, que se passe-t-il? Alors, on a perdu Daniel.
Ben salut Daniel et bon week-end quand même.
Bon, ben, c'est dommage, il avait failli gagner.
Non, c'est bien fait.
Parce que Daniel est là. Ah, mais si, il est là. Oui. Daniel.
Ah, là, ça va mieux. Bonsoir à tous.
Eh ben bonsoir Daniel, on va être très rapide parce que du coup, comme on vous a perdu, on n'avait plus le temps. Vous nous écoutez d'où et vous nous écoutez souvent, hein, qu'est-ce qu'on déguste?
Alors oui, je vous écoute toute la semaine, en particulier le vendredi soir. Et donc on va voir si ce soir je vais être capable de gagner le
week-end.
Et vous nous écoutez d'où?
Vous proposez.
Alors vous nous écoutez d'où? À quel endroit?
À la Bastide Saint-Pierre, pardon.
À la Bastide Saint-Pierre. Alors attention, c'est parti. Donc quatre questions. Vous répondez correctement à deux et ça ira très bien. Ok. Notre invité ce soir, Franck Garcia, c'est le patron de option numéro 1, Lys Traiteur, option numéro 2, Rose Traiteur.
Lys Traiteur.
Ok, bon, juste là, ça va. Lys Traiteur a à sa carte en ce moment de la salade de tomates et son concombre émincé, vrai ou faux?
Vrai.
Aïe. Non, alors là, déjà, attention, hein, parce que il nous l'a dit tout à l'heure, Franck Garcia, il n'y en a pas, et pourquoi il n'y en a pas?
Pas de tomates en décembre.
Voilà, parce que c'est pas,
pas de tomates en février non plus.
Voilà.
Exactement.
Bon, rien n'est perdu encore, Daniel. Rien n'est perdu.
C'est chaud, mais.
On boit ce soir, on a bu un Alice du domaine de Monteils, et on est en train de finir, d'ailleurs, je vais me resservir un petit coup, de Carole de Belle-Aile. Le Carole de Belle-Aile, c'est du Fronton ou c'est du Gaillac?
Fronton.
Ah, ça va. Ça, ça veut dire deux bonnes réponses déjà.
Oui, parce que Carole de Bellel, en plus, il a du pot parce qu'ils sont à la Bastide, à Kansas, donc c'est pas loin.
Donc ça veut dire deux bonnes réponses. La dernière, ben, c'est juste pour la forme.
Pour le fun.
Un événement très important où le Tarn-et-Garonne a brillé vient de se dérouler à Paris, c'est le...
Salon de l'agriculture.
Oui,
bon.
Super, effectivement, on a brillé et on va le voir de quelle manière avec Pascal dans quelques instants. Vous, mon cher Daniel, eh bien vous repartez
bah, bon week-end,
avec un week-end pour deux personnes à l'hôtellerie du Vieux-Corde, le repas du soir, la nuit, le petit-déj, et puis un vignoble, enfin une visite d'un vignoble galliacois. Vous nous enverrez une carte postale, hein, vous nous raconterez.
Avec grand plaisir.
Merci Daniel, à plus.
Merci à vous et très bonne soirée à toute l'équipe.
Merci.
Merci. Ciao. Vins en compétition, mais c'est où ça? Dégusté à l'aveugle par 6000 jurés bénévoles.
C'est où? Tu vas nous le dire dans quelques instants. Mais d'abord, on a un reportage signé Marie à faire écouter à nos auditeurs.
Le foie gras de Miculo de Beaumont de Lomagne a reçu une médaille au salon de l'agriculture.
Tout à fait.
Vous étiez au courant?
Sur la dépêche ce matin.
Oui, oui, oui. Je connais bien la société et effectivement, voilà, société Miculo a de très bons produits. Oui, oui, c'est une fierté, oui.
Est-ce que vous cherchez à privilégier les produits locaux? Ah oui, c'est toujours mieux. Voilà, j'essaie quand je peux, j'essaie bien sûr de consommer local. Oui, ça c'est sûr.
Il vaut mieux privilégier les produits locaux que les produits étrangers.
Oui, oui, ben il faut qu'on puisse relever, enfin faire travailler du moins notre région.
Et pourquoi?
La qualité. La qualité et le terroir.
Ben parce que ça évite les déplacements, donc c'est écologique entre guillemets. Et puis surtout, ça permet de faire vivre des commerçants locaux plutôt que des gens ailleurs. Donc c'est toujours mieux de consommer local. Voilà, quand on peut le faire, on le fait.
Comment est-ce que vous choisissez le vin que vous achetez?
Point de vue qualité-prix, je regarde surtout la qualité que le prix.
Alors pour le vin, je regarde sur l'étiquette où il a été mis en bouteille. Et puis s'il s'agit d'un récoltant ou... Voilà, s'il s'agit d'un récoltant.
Le prix que je veux y mettre.
Suivant l'année, suivant... Moi, je suis fan de Bordeaux, donc je prends souvent du Bordeaux. Et je l'achète, je l'envoie en grande surface parce que c'est là où il est le moins cher.
Je regarde d'où il vient.
C'est mon mari qui choisit. Moi, je ne bois pas de vin. Alors, je sais qu'il va dans les magasins bio, il regarde par rapport au sulfite qu'il y a à l'intérieur du vin.
Est-ce que vous faites attention aux différents types de distinctions, par exemple les médailles?
Non, 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 non.
Oui, il y a certains domaines qui sont plus notés que d'autres.
Oui, c'est vrai que c'est un plus si c'est, voilà, si c'est dans ma gamme de prix, parce que moi j'achète en général des bouteilles à moins de 5 euros. Si c'est dans cette gamme de prix, il y a des médailles, je prends plutôt le médaillé.
Alors, les médaillés, ça tombe bien, il y en a.
Ah, mais les médaillés, il y en a. Une médaille, et surtout quand elle est d'or, c'est 30 à 40% de vente en plus. C'est énorme, c'est pour ça que, ben, comme je disais tout à l'heure, 16 000 vins en compétition dégustés à l'aveugle par 6 000 jurés bénévoles choisis sur dossier. C'est le concours général agricole du Salon de l'agriculture de Paris. Cette année 2014, ben, le département a pas mal brillé, des médailles d'or, il y en a eu beaucoup. Domaine de Montels, Blandou, alors je sais pas si c'était la cuvée Alice, mais ça y ressemblait. Donc médaille d'or, Coteau du Quercy, Jean-Claude Lartigue, domaine de Guillot, ça va lui coûter 6 bouteilles quand même d'avoir été médaille d'or.
Jean-Claude.
Ouais, il va falloir penser à qu'est-ce qu'on déguste. Rosé des vignerons du Quercy, médaille d'or. En fronton, en 2012, rouge, on a eu médaille d'or, Bellevue-la-Forêt, domaine Roumaniac, Château-Boujac, Plaisance et le Gaec de Fontblanc. En rosé, fronton, Vinovali, bien entendu pour Inès et pour une autre cuvée qu'on n'a pas goûté d'ailleurs, qui s'appelle Croix d'Ourdaine. Et Bellevue-la-Forêt a aussi une médaille d'or pour le rosé 2013. Saint-Sardos, la cave des vignerons de Saint-Sardos, a eu une grande médaille d'or pour sa cuvée Grand-Esse. Et en tout, 11 médailles d'or pour les vins de Tarn-et-Garonne. Après, bon, je vous passe les argents et les bronzes, mais en tout cas, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de médailles pour les vins de Tarn-et-Garonne.
Est-ce que le domaine de Revel a une médaille?
Bien entendu, en argent, en blanc doux.
Parce qu'il a eu un vin récemment qui a été sélectionné un rosé meilleur vin du monde ou quelque chose comme ça. Hein.
Oui, là, je crois, je sais pas si c'est un rosé ou un rouge.
Ah, je sais pas.
Il vient d'être, il y a un mois à peu près, il a été sélectionné meilleur vin du monde. Mais le Château Bellevue de la Forêt, dans le 31, il n'est pas dans le 82.
Ouais.
Oh, comprends. Oui, mais comme ils sont venus ici, écoute, on va pas faire. C'est du fronton. Hein.
Et Michael Reynal sera notre invité la semaine prochaine, les gars.
La semaine prochaine, dont il nous donnera toutes les informations nécessaires sur sa médaille.
À noter que dans le concours général agricole, dans le concours de Paris, le concours général agricole, il n'y a pas que des vins, mais il y a aussi des produits, et que le foie gras mi-cuit sous vide de la maison Micoulot de Beaumont-de-Lomagne a remporté cette année encore une médaille d'or.
On vient d'entendre dans le reportage qu'a signé Marie. Maison Micoulot que vous connaissez bien.
Exactement. Ouais. Exactement, j'habitais juste à côté.
Bon.
Belle maison, il faudra qu'on les invite, un de ces quatre. Ils sont marrants aussi.
Au concours général de Paris, il y en avait qui dégustaient.
Oui, des dégustateurs bénévoles.
Des dégustatrices aussi.
Ah, mais on avait une dégustatrice.
Ben oui, il y avait Sandy. Bonjour Sandy.
Salut.
Bonjour à tout le monde.
Salut Sandy.
Bonjour Sandy.
Comment ça va?
Allez bien. Ça va, merci vous aussi.
Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu faisais à Paris?
Eh bien, à Paris, j'étais jury pour le concours agricole, donc qui s'est déroulé le samedi dernier. Et j'étais jury pour l'AOC Gaillac.
Et alors, comment ça s'est passé?
Alors, comment ça s'est passé? Ben, on est à peu près 500 jurys qui participent à ce concours. Nous sommes répartis par table de 5 ou 6 jurys. Chacun a une appellation et un vin en particulier. Donc, moi, j'étais sur les AOC Gaillac Rouge. À ma table, il y avait un œnologue, il y avait un blogueur, il y avait un amateur de vin, un sommelier et moi.
Et toi, Sandy Jolibert de Wine and Foie Gras. L'ambiance était sympa ou quoi? Ou alors c'était très studieux, tout le monde les yeux baissés. Comment ça, ça a fait débat?
J'ai eu une table très sympathique. Et vraiment, on était tous sur la même longueur d'onde. Et ça s'est très très bien passé. Il n'y a pas eu vraiment de débat dans le sens où on savait tout ce qu'on voulait. Et il y avait une belle harmonie sur la table. Donc c'était très très intéressant et enrichissant.
Donc vous n'avez pas eu de vin à déguster, des vins plutôt mauvais quoi?
Alors nous avons eu des vins thermovinifiés en effet sur des AOC. Donc ceux-là on les a mis à l'écart.
Mais comment vous avez trouvé qu'ils étaient thermovinifiés?
Ça se sent, ce sont des vins souvent qui ont vraiment un goût très particulier, très fruité, sur des arômes très prononcés de fruits rouges et noirs. Et on le sent vraiment de suite.
Alors, thermovinifié et flash pasteurisé. Et flash détendu.
Et flash détendu, ouais.
Sachant qu'en plus, certains, on sentait un peu des copeaux. Donc, c'était un peu troublant sur deux ou trois vins. Donc, du coup, cela, on les a écartés. Sachant qu'en plus, il y a une présélection de fait avant de monter les échantillons sur Paris. En interne, les syndicats des AOC sélectionnent une quinzaine ou une vingtaine de vins pour ensuite les faire monter sur Paris.
Bon, alors, qu'est-ce que tu en retiens? Quel est le vin que tu veux nous mettre en avant, là, du coup, en redescendant de Paris?
Alors, le souci est fait dans le sens où on ne connaît pas, en fait, du tout les vins qui vont sortir. Donc, ce sont des vins complètement anonymes. On a le résultat du concours qu'en fin de journée. Nous, on a sélectionné un vin, donc c'est je pense que ce qui est ressorti, c'est Maspigno. Sachant qu'il y avait une autre table aussi qui faisait là aussi Gaillac Rouge. Donc, on peut pas savoir quel est le vin que nous avons médaillé au final. Mais il y a eu le domaine de Salette également qui est ressorti en médaille d'or. Et les deux, c'est des vins que nous avons mis en avant parce que c'est des vins de terroir surtout. Et on sentait vraiment le travail du producteur derrière. Sachant que 2013 est une année, et 2012, pardon, est une année très très difficile dans le Gaillacois. Et ça donne des vins, si le vigneron ne met pas sa pâte, des vins qui peuvent être pas trop équilibrés. Alors que là, en l'occurrence, les deux que nous avons sélectionnés sur l'or étaient vraiment très très bien équilibrés.
Ok, il nous tarde de te revoir, Sandy.
Moi aussi.
Quand tu veux, tu repasses. À bientôt, bisous.
À bientôt, bisous, ciao.
Vous avez une cave perso, vous, Franck Garcia, pas forcément Alice Traiteur, mais vous, chez vous.
Ouais. Ouais. Oui, oui.
Cet amateur de vin.
Ah oui, alors, plus Vaqueras, Gigondas, Côte-Rôtie. Voilà.
Un peu Condrieu aussi.
Un petit peu, ouais.
Oui, un peu, là. On est juste à côté, ouais, là.
Un petit peu, effectivement.
Bon, Vallée du Rhône.
Vraiment, ça a été une découverte il y a 4 ans. Voilà. Ça a été une découverte il y a 4 ans. Je suis allé sur Vaqueras et voilà. Là, j'ai vraiment. Enfin, une vraie découverte. Sinon, j'étais très Bourgogne, très Alsace. Bordeaux, pas du tout. Et voilà. Mais ça a été une vraie découverte.
Vous lisez la BD un petit peu de temps en temps? Gaston Lagaffe, vous avez
oui,
lu?
Oui, bien sûr.
Ah ben voilà, Gaston Lagaffe a 57 ans, figurez-vous.
Et oui, c'est ça qui est amusant. Donc, alors j'avais prévu une autre chronique, et puis sur Google, je tombe sur leur petit doodle habituel, et là c'était Gaston. Alors surprise, pourquoi Gaston? Et puis il se trouve que c'est les 57 ans de Gaston. Alors on se dit 57 ans, c'est pas un peu un anniversaire à la con, comme me l'a fait remarquer mon camarade. Non, voilà, pourquoi 57 ans? C'est juste parce que l'apparition de Gaston, c'était vraiment le 28 février 1957, et 57 plus 57, 1957 plus 57, ça fait 2014, donc c'est vraiment pile aujourd'hui les 57 ans de Gaston Lagaffe. Donc voilà. Alors l'idée vient pas des éditions Dupuis. Alors Gaston Lagaffe, c'est le personnage que tout le monde connaît, créé par André Franquin dans le magazine Spirou en 57. Donc on vient de le dire, c'est son anniversaire pile aujourd'hui. Alors la première fois qu'il apparaît, il apparaît en costume et une pape, et plus tard en jean noir, pullover vert et les fameuses espadrilles et la cigarette au bec. Alors cigarette qui a assez vite disparu. Deux semaines plus tard, un faux communiqué bien évidemment de Fantasio, tente d'éclaircir la situation au lecteur. Gaston a été recruté par une personne dont il ne se rappelle pas le nom, mais il demeure persuadé qu'il est bâti pour une carrière de héros. Alors, on pouvait pas l'intégrer à l'époque dans une série du journal de Spirou. Il va donc devenir le premier héros sans emploi. C'est pour ça aussi qu'il est un petit peu d'actualité aujourd'hui. Alors, le personnage de Gaston est introduit par ce dialogue que va peut-être nous lire Rémi lors de sa première rencontre avec Spirou dans le Spirou numéro 990.
Spirou, et qui êtes-vous? Gaston, qu'est-ce que vous faites ici? J'attends. Mais vous attendez quoi? Je sais pas, j'attends. Qui vous a envoyé? On m'a dit de venir. Mais qui? Je sais plus. De venir pour quoi faire? Pour travailler. Travailler comment? Je sais pas, on m'a engagé. Mais vous êtes bien sûr que c'est ici que vous devez venir?
Voilà, alors on retrouve bien le côté un peu mollasson, paresseux, et bien à l'occasion gaffeur de Gaston, qui va trouver quand même le moyen de foutre le feu aux extincteurs, par exemple. Alors c'est à cause de ces gaffes que Gaston deviendra Lagaffe, parce qu'au départ il n'avait pas de nom de famille, bien après son apparition, et trouvera aussi une fonction récurrente dans le journal, celle d'empêcher la fameuse signature des contrats importants avec Monsieur Demesmaker, voilà. Il va inonder par exemple les locaux. Alors il passe aussi la plus grande partie de son temps à essayer d'éviter de travailler, comme un peu tout le monde, mais lui c'est vraiment plus évident. Il va se cacher par exemple dans une armoire ou plus simplement en dormant sur son bureau. Alors malgré tous ces problèmes, parfois quand même très graves, Gaston se fera renvoyer qu'une fois, lorsque Monsieur Dupuis tombe nez à nez avec quoi, donc là, un autre rapport avec ce dont on parlait tout à l'heure, le salon de l'agriculture, il tombe nez à nez avec une vache dans les locaux du journal. Alors Gaston sera quand même réembauché assez vite grâce au soutien des lecteurs après un appel de Fantasio aux lecteurs. Alors pour petite anecdote, cette histoire est vraie. Franquin aimait bien dessiner d'après la réalité et il avait fait acheter à Monsieur Dupuis une vache qui est restée un an et demi dans les locaux de chez Dupuis. Elle a même eu un veau qu'ils ont fait gagner ensuite par concours. Et en fait, Franquin a dessiné cette vache qu'au bout d'un an et demi. C'est quand même assez remarquable. Bon, Franquin était déjà une star à l'époque pour Spirou. Donc voilà. Alors après, au fil des années, d'indolent qu'il était, Gaston va devenir plus astucieux. Il va inventer divers objets et procédés destinés au départ à lui faciliter le travail, ou bien le fameux gaffophone, l'instrument horrible qui fait tomber les feuilles des arbres.
Alors,
ouais, voilà, puis tout un tas de trucs. Alors, je vous invite à découvrir ou à redécouvrir l'auteur de génie qui était Franquin au travers de Gaston. Alors, il y a 19 albums, une intégrale, vous pouvez trouver chez Dupuis.
Ça veut dire que
c'est lui, Mademoiselle Jeanne.
Oui.
Et Mademoiselle Jeanne.
Mademoiselle Jeanne qui était au départ aussi un personnage qui servait un petit peu à rien, puis au fil du temps, elle a changé un peu de physique et c'est devenu un personnage important.
C'est comme Tintin, on peut pas espérer un jour avoir de nouvelles aventures de Gaston, Lagaffe.
Il y a des nouvelles aventures de Gaston, c'est un petit peu difficile parce que je crois qu'au niveau de la propriété, c'est compliqué. Il y a son neveu en revanche, Gaston, dont j'avais déjà parlé une fois, existe. Et pour Hergé, c'est un petit peu plus compliqué aussi pour des histoires de droit. Il existe déjà manifestement un Tintin dessiné qu'on verra peut-être ou peut-être pas. Il faut attendre la fin de la tombée des droits.
Parce qu'il y avait un concours d'une nouvelle histoire de Tintin au dernier festival de BD d'Angoulême, là,
voilà,
qui vient de se dérouler.
Un petit questionnaire gourmand.
Il nous reste deux choses à voir. Le questionnaire gourmand et la recette. Et moi, j'aimerais bien quand même la recette.
Une petite
de
recette.
Garcia de Lise Trésor.
Avec des produits locaux.
Pas du tout.
Pas du tout. Ah ben bravo.
De la Saint-Jacques. mais une recette très simple, ultra gustative, qu'on peut faire à l'entrée ou en pièce cocktail. Donc, vous prenez une Saint-Jacques, une noix, coupée en trois, salée, poivrée, pâte à filo, donc c'est la pâte très très fine, la pâte à filo, feuille d'estragon, beurre clarifié sur la feuille d'estragon, vous remettez une pâte à filo dessus, vous faites au couteau des petits carrés, une pâte à filo dessus, sur la Saint-Jacques, une pâte à filo sous la Saint-Jacques, passez à l'huile d'olive, vous servez de suite, c'est une vraie tuerie. Une vraie tuerie, c'est très simple, très rapide, et c'est vraiment super bon.
Pâte à filo, c'est pas la brique, c'est pas
c'est non,
pas, ça.
Pas du tout. C'est vraiment la pâte à filo, c'est beaucoup plus fin.
Ça se trouve où ?
Pâte à filo ?
Oui.
Grande surface, on en trouve maintenant. Voilà. Grande surface, on en trouve.
Bon marché des producteurs. Donc
c'est plus fin que la brique.
Beaucoup plus fin.
Ah ouais.
Beaucoup
je plus fin. Je vois pas du tout ce que c'est la pâte à filo.
Ça s'apparente. Alors, les puristes vont m'arracher un œil, mais quand vous le cuisez à la feuille du pastis gascon. Mmh.
D'accord. Ah oui. Oui, ouais, d'accord. Ah
ouais, ça fait un dixième de millimètre.
C'est vraiment très fin.
Et ça croustille. Du
et
coup.
Ça croustille énormément. Ouais. Donc juste passer à la poêle à l'huile d'olive, comme ça, c'est vraiment une vraie tuerie.
Le questionnaire gourmand, qu'est-ce qu'il ne manque jamais dans votre cuisine personnelle, à vous, Franck Garcia ?
De l'huile d'olive.
Ouais. Voilà.
Dans ton frigo, il y a toujours quoi ?
Du lait.
Mais du lait comment ?
Demi-écrémé, voilà.
Oh, moi je te conseillerais le lait Gabory. Le lait Gabory, c'est un producteur qui est, je crois, en Mayenne, qui fait du lait, du beurre et de la crème de jerseyaise, de petites vaches jerseyaises qui pissent le lait. C'est un beurre qui est un lait qui est jaune, le beurre est jaune. Tu trouves ça chez partout dans tous les magasins bio. Moi, je le prends chez Biosol ici à Montauban. Tu vas goûter le lait Gabory, tu vas m'en dire des
nouvelles.
Par contre, c'est entier. Avec de la crème,
le digérer, quoi, entier.
Ça se digère tout seul.
La dernière fois que vous êtes allé au marché des producteurs de Montauban,
il y a 3 semaines.
Ouais. Voilà. Vous recherchiez quoi en particulier ?
Alors là, c'était sur le plan personnel et c'est vraiment l'instinct. C'est en fonction de ce qu'il y a et en fonction de.
En ce moment, il y a beaucoup de politique, par exemple. Vous pouvez faire.
Ouais, mais ça s'achète pas, ça.
J'ai du mal à le travailler, ça.
Tu es exilé sur une île déserte, tu emportes quoi ? Tout de suite, là, en priorité. Attention. Question piège.
De l'huile d'olive.
Tu aurais dit ta femme, tu aurais évité de prendre une baffe en rentrant à la maison. De l'huile d'olive, d'accord.
Voilà. C'est mes racines espagnoles.
Méditerranéennes.
Tout à fait.
Et la dernière fois que vous avez cuisiné pour cuire.
Pour séduire.
Mais non, parce qu'il me fait des gestes en même temps.
La dernière fois que j'ai cuisiné pour séduire, hier soir.
C'était
tous les soirs.
Et c'était quoi ?
Oh, c'était rien de bien compliqué. C'est juste une petite salade avec un œuf poché par-dessus.
Ça a marché ?
Ouais.
Ah, super.
Merci, Franck Garcia.
Merci à vous,
patron. Merci, bravo, parce que
Traiteur, LYS-traiteur. Pour LOL. Non.
Page
Facebook, site internet. Et c'est le nom de votre fille, pardon.
Lana.
Elle est là-bas, Lana.
Johan.
Et Séverine.
Que
j'embrasse bien fort.
Il y aura les liens à partir du site. Ouais. Il y aura toutes les photos, tous les machins.
Ça va, Lana ?
Oui.
Parle dans le micro. Attends, pour t'entendre un coup là. Dans le micro là, regarde. Alors, ça va ?
Non, tu veux pas parler dans le micro.
Bon, mais tant pis. Allez, merci Aurélien pour la réalisation de cette émission que vous retrouverez demain matin à midi pour la rediffusion et en podcast sur cfmradio.fr et qu'est-ce-qu'on-déguste.com.
Salut. C'était salut Qu'est-ce qu'on déguste avec Vinovali, union des caves de Fronton, de Técou, des Côtes-d'Olt et des vignerons de Rabastens. Vinovali, les vignerons d'Ovalie.